Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, I comme Eastwood, E comme Eastwood, Clint Eastwood, franc-tireur, démystificateur et reconstructeur avec Andrea Grunert, Bernard Benoliel et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est une anomalie dans un Hollywood qui produit à destination du public jeune des franchises de super-héros à l'appel et des remakes ad nauseam. À 88 ans, Clint Eastwood est le doyen des cinéastes américains de fiction en activité et pourtant La Mule, son 37e film comme réalisateur, est un succès aux États-Unis comme en France où il est sorti il y a 10 jours. Avec cet octogénaire ruiné transportant de la drogue pour le compte d'un cartel, nouvelle autoportrait de l'artiste en vieux bougon laconique, individualiste et politiquement incorrect, tentant de réparer les plaies du passé avant qu'il ne soit trop tard. Eastwood ne se contente pas, ce qui est déjà très émouvant, d'exhiber au spectateur le dernier état d'un corps qu'on regarde vieillir à l'écran. Depuis 55 ans que Sergio Leone l'a immortalisé en homme sans nom, il poursuit un double mouvement paradoxal et contradictoire, amorcé chez Don Siegel avec Les Proies et l'inspecteur Harry, déconstruire jusqu'au masochisme son image d'homme d'action et de justicier expéditif pour mieux reconstruire le mythe, le sien et celui de l'Amérique. Car si l'acteur la porte en lui, cette Amérique, son âme sombre et son penchant pour la violence, le cinéaste n'a de cesse, dans ses études en clair-obscur, de tenter de réparer une nation qui a perdu son innocence à jamais, tout en ayant évidemment pleinement conscience que c'est impossible. Et c'est en cela, sans doute, que Clint Eastwood, le dernier des grands classiques hollywoodiens, est un cinéaste résolument moderne. Pour évoquer quelques stations de l'infini chemin de croix eastwoodien, nous recevons dans Plan Large ce samedi Andrea Grunert, autrice il y a quelque temps d'une thèse de doctorat sur ses films et plus récemment chez Vendémiaire du dictionnaire Clint Eastwood, et Bernard Benoliel qui lui a consacré un livre à l'acteur cinéaste aux éditions des Cahiers du cinéma. En fin d'émission, le Dirty Harry de notre partenaire Sofilm, Fernando Ganzo, tracera le portrait d'un autre grand laconique hollywoodien, Big Bad Bob, Robert Mitchum, qui fait la couverture de la revue à l'occasion de la sortie fin février du film de Bruce Weber, Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Mais pour l'heure, retour aux sources, c'était dans un studio de radio en 1971.
Hey man, you better get a move on. I already played your thing.
Yeah, I heard it. You're a real human being.
And you're on the air, baby.
Men have destroyed the roads of wonder, and their cities squat like black toads. In the orchards of life, nothing is clean, or real, or as a girl, naked to love, or be a man with. This is Dave Garver with a little verse, a little talk, and 5 hours of music to be very, very nice to each other by. Caramel, Dave Garver speaking. Hi, what'll it be?
Play Misty for me.
Misty, huh? We have that right on the play rack. Thanks for calling.
I see you got your little Misty chick calling you again.
Righty.
Swing low.
You take it easy now, huh?
See you in the AM.
Caramel, Dave Garver.
Et voilà pourquoi nous ne prenons pas d'appel d'auditeurs dans Plan Large. Clint Eastwood, un animateur d'émission de radio persécuté par une fan, c'est un frisson dans la nuit, Play Misty for Me, son premier film comme réalisateur en 1971, l'année même où il interprète pour la première fois l'inspecteur Harry pour Don Siegel, un de ses deux mentors, avec Sergio Leone. Il va d'ailleurs leur dédier tous les deux son chef-d'œuvre de 1992, Impitoyable, c'est dédié à Sergio et Don. Et puis, premier coup de canif dans son image et très littéralement, coup de canif et coup de grand couteau, Andrea Grunert, puisqu'il y a dans ce film Un frisson dans la nuit, ce portrait de Clint Eastwood, une peinture que la fan en question, avec son grand couteau, va lacérer en lamelles. C'est déjà, dès le premier film, il s'agit pour Clint Eastwood de casser son image.
Voilà, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a en fait trois films qui étaient pratiquement sortis en même temps. Le troisième étant Les Proies de Don Siegel. Dirty Harry est sans doute moins stéréotypé que je le prétends maintenant. Mais il faut partir de cette idée qu'il y a quand même un héros vainqueur qui est triomphant finalement sur le mal, sur le bad guy. Et dans Misty, il est lui-même menacé, en plus par une femme. C'est aussi très intéressant. Dirty Harry, l'homme sans femme, le veuf qui, effectivement, comme tous les héros solitaires américains et autres, n'a pas de femme et épousé son arme. Et dans Misty, il est donc effectivement d'abord là aussi la proie d'un amour obsessionnel. Et dans Les Proies de Siegel, de Bigal, c'est encore plus poussé parce qu'il meurt à la fin. Et bon, en tant que femme, il y a quand même des choses qui sont aussi intéressantes dans ces images de femmes qui continuent jusque peut-être les années 90. L'homme, effectivement, qui expose aussi cette peur de l'autre sexe.
Madame Noliel, il prend un grand risque quand il fait ce film. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'influence de Sergio Leone, de Don Siegel, et puis de Ford comme grand modèle. Là, on a plutôt un modèle hitchcockien. C'est une sorte de psychose renversée, ce film, Play Misty for Me.
Oui, oui, sans doute. Son premier film, c'est à la fois pour lui, en tant que réalisateur, un exercice de style. Enfin, on voit qu'il cite les grands maîtres, enfin, il cite le grand maître hitchcockien. Mais effectivement, c'est aussi un film où il rend hommage à Don Siegel, très littéralement, puisque Don Siegel joue dans le film. Mais aussi, effectivement, encore plus, c'est le film où il continue, comme il va le faire pendant toutes les années 70, à essayer, d'abord infructueusement auprès de la critique, de déconstruire son image de séducteur, de misogyne, de misanthrope, voire de fasciste, puisqu'on le traitera de fasciste,
on va y venir très vite,
j'imagine. Ouais. Et donc, il fait un travail sur cette image, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il présente dans ses films un personnage dont il dit « voilà, c'est l'image que vous avez de moi, et voilà ce qu'il en reste ». Et effectivement, avec un masochisme ou une détermination consommée, il va mettre en pièce lui-même, sous les yeux du spectateur, son image, disons, de personnage, ou de macho, et il va travailler comme ça, à laminer ce qui est le cliché qui lui colle à la peau, à savoir d'un infréquentable. Et finalement, au bout, je dirais, de cet effort répété de plusieurs films, il va finir par obtenir satisfaction dans des proportions qu'on connaît aujourd'hui.
Ce qui est très passionnant avec ce film, c'est que se met en place tout de suite un système qui est le système de production d'Eastwood. C'est la Malpasso Company, du nom d'un ravin qui passait dans sa propriété, hébergé au sein d'un studio. Alors ici, c'est la Universal. Plus tard, ça sera évidemment la Warner, avec qui ça sera le partenariat le plus fructueux. Mais il y a tout de suite ce qu'a très bien compris sans doute Eastwood en regardant travailler, par exemple, à Don Siegel. Il faut une petite économie, un petit budget, pas de star à part lui, et travailler de façon à économiser tout cet argent. D'ailleurs, dès ce premier film, il va finir, je crois, 2 jours et demi en avance, il va économiser 50 000 dollars, et c'est ça un des secrets de la longévité de Clint Eastwood, Andrea Grunert.
Oui, sans doute, il a fondé cette maison d'édition un peu avant ce premier film, aussi pour contrôler son image qu'il proposait à construire, et je pensais il est considéré comme un homme très rapide, très efficace, qui aussi pour le montage toujours plus rapide que le budget et le protocole annonce, et il continue à travailler comme ça pendant très longtemps. Maintenant il a un peu changé, il y a d'autres stars qui sont dans son film et qui sont aussi ravis de travailler avec lui. Il a sans doute des conditions amicales aussi qui s'offrent à lui. Et ça aussi, c'est intéressant. Son système n'est pas seulement un système de création artistique, mais aussi un système économique assez intéressant.
C'est l'homme d'une seule prise, c'est la légende Bernard Benoliel. D'ailleurs, Fernando Gonzo, vous étiez allé enquêter à Malpasso et tout le monde vous disait, voilà, si on va pas faire compliqué, si on peut faire simple, et l'idéal, c'est une prise et hop, on passe au plan suivant.
Oui, même dans le plan de travail de leur journée, ce qu'ils vont chercher à faire souvent, Clint Eastwood et ses collègues qui sont là depuis très 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 longtemps, Tim Moore, son producteur exécutif, il est là depuis Mystic River. Par exemple, son monteur, Joel Cox, il est là depuis vraiment depuis le tout début. C'est assez extraordinaire. Et donc, il travaille tellement vite que ce qu'il va chercher à faire, c'est de travailler dans la pause déjeuner pour pouvoir finir très tôt. Et après, pouvoir se détendre, discuter, et lui, il va jouer le piano, etc. Et c'est intéressant parce que parfois, ça arrive à des points économiquement extrêmes. Récemment, alors qu'il fait des films assez spectaculaires, comme American Sniper, il y a plein de gens qui se sont un peu moqués de la fameuse séquence avec le bébé, parce qu'on voit qu'il y a un bébé en plastique dans les bras des Bradley Cooper, dans la mule. Là, il y a même des morceaux, je crois, qu'il utilise qui sont libres des droits. C'est-à-dire qu'il a tellement pas envie de se charger des choses, il veut tellement se débarrasser et aller vite que ça rejoint un extrême d'artisanat total, quoi. Donc c'est assez intéressant qu'à l'intérieur de l'industrie, quelqu'un de son expérience et qui a eu son niveau dans le star system assume cette pauvreté de moyens parfois.
Every day for the last 10 years, Loretta there has been giving me a large black coffee. Today she gives me a large black coffee, only it's got sugar in it. A lot of sugar. I just came back to complain. How you boys put those guns down?
Say what?
Whoa, we're not just gonna let you walk out of here.
Who is we, sucker?
Smith and Wesson and me.
Go ahead, make my day. Vas-y, fais-moi plaisir. Alors, s'il y a une réplique culte dans le cinéma d'action, c'est bien celle-là. Même Ronald Reagan s'était emparé de cette réplique la même année. On est en 1983. C'est le retour de l'inspecteur Harris, Sudden Impact, quatrième et avant-dernier volet de la franchise Inspecteur Harry. On peut l'appeler comme ça. C'était d'ailleurs assez innovant à l'époque. Dans les années 70, on n'était pas à 70-80. On n'était pas exactement comme aujourd'hui où on fait des répétitions ad nauseam. Alors, Bernard Benoliel, c'est un peu le film de tout, enfin, le personnage même de tous les malentendus. L'inspecteur Harry, vous l'avez dit tout à l'heure, ça lui vaut l'image de fasciste, grâce notamment à la critique Pauline Kael, hein, qui descendait Eastwood pour mieux défendre le nouvel Hollywood à l'époque. Alors que si on regarde ce film, Sudden Impact, mais même et surtout l'inspecteur Harry d'origine, celui de Don Siegel, c'est pas parce qu'on montre un personnage sadique qui prend plaisir à la violence parfois avec un comportement un peu problématique qu'on l'est soi-même. Enfin, il y a des effets de mise en scène très clairs qui montrent que parfois on se distancie quand même un peu des agissements de l'inspecteur Harry.
Oui, mais cette distanciation à l'époque est passée alors là totalement inaperçue. Et effectivement, le premier Inspecteur Harry, donc qui sort, je crois, en décembre 1971, est vraiment le film à la fois de tous les succès et de tous les malentendus. C'est vraiment le film qui va permettre à Eastwood plusieurs fois dans les années 70 d'être finalement l'acteur le plus rentable du système hollywoodien, et en même temps c'est celui qui va vraiment le faire détester de manière continue, parce que dans le film, en fait, l'inspecteur Harry, c'est l'histoire d'un inspecteur qui, dans la première partie du film, certes a l'air d'avoir des méthodes un peu brutales, mais franchement est plutôt sympathique au spectateur, il fait des clins d'œil, il est marrant, il a des répliques. Et puis dans la deuxième partie, il devient vraiment infréquentable, il a des méthodes à lui. Et là, effectivement, il y a une dissociation qui se produit entre, disons, la première adhésion du spectateur et puis ce qu'il voit qui le fait reculer. Mais la mise en scène elle-même recule. La mise en scène elle-même se détache du personnage. Mais à l'époque, Eastwood était une tellement bonne cible que on n'allait pas entrer dans ces subtilités-là, qui sont des subtilités finalement de mise en scène, de travelling, de distance au personnage, de distinction entre le personnage, l'acteur, le cinéaste. Bon, on est dans une période idéologique aux États-Unis très forte, de polarisation très forte, et tout ce qui n'appartient pas à la contre-culture estampillée, ou disons au nouvel Hollywood naissant, est considéré finalement comme réactionnaire, nixonien, et infréquentable.
Et donc, effectivement, le personnage du tueur en série porte sur sa ceinture l'emblème Peace and Love, donc c'est...
Oui, tout est inversé.
Tout est là pour qu'on se précipite dans la critique. Et alors, ce quatrième volet, le seul que réalise Clint Eastwood, Sudden Impact, qui n'a pas une très bonne image non plus. Alors, du côté de ceux qui aiment le Eastwood auteur pur et dur, ils disent bon, c'est opportuniste, il a fait ça pour se faire de l'argent parce qu'en quittant Kman, son film précédent n'avait pas marché, donc il fallait se remettre en selle. Ceux qui sont des fans hardcore de l'inspecteur Harry trouvent le film un peu décevant, un peu mou. Or, c'est un film, André Gounert, qui est assez passionnant dans sa manière de déconstruire, là encore, moins l'image, son image d'inspecteur Harry, que les codes même du genre qui pousse très loin d'un côté parodique et d'un côté très fantastique. Également.
Tout à fait. En plus, de nouveau, on a une femme qui joue en fait, la question de l'autodéfense.
C'est Sandra Locke.
Est portée sur le motif de la vengeance. Donc là, de nouveau, quelque chose de nouveau aussi. Puis c'est plein d'ironie. Il y a beaucoup de références aussi, même à la naissance du cinéma. Je rappelle la scène finale là, sur le terrain de foire. Donc c'est presque Fritz Lang. Réinventé par Eastwood. Effectivement, la critique à l'époque avait déjà un peu changé quand même. C'est un film tout à fait passionnant, comparé aussi aux autres volets, trois autres volets, il y en a encore un cinquième.
Oui, parce que l'inspecteur Harry est complètement passif.
Effectivement. Il assume, elle assume son rôle. En plus, il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans le premier, par exemple. Il lui accorde finalement la liberté à cette femme. Il est passif, effectivement, il transporte des choses sur cette femme, son alter ego, une femme, cette fois-ci aussi vue très différemment de Evelyn dans Play Misty, par exemple.
Mais même, on peut dire que dans Sudden Impact, il lui délègue presque le premier rôle. Quoi. Il donne à Sandra Locke toute la place. Des choses qu'il a déjà faites, par exemple, dans des films précédents avec elle aussi, genre L'épreuve de force. On voit bien que c'est en quelque sorte elle qui porte la culotte. Elle est vraiment l'héroïne principale. Et finalement, Eastwood, comme il le fera avec d'autres, par exemple, je pense à Jeff Bridges dans Le Canardeur, il est un peu spectateur de l'autre acteur. Il est dans le même plan, il le regarde, il s'en amuse, il admire. Mais il a cette élégance-là de céder en quelque sorte la première place à l'autre. Encore une fois, des attentions qui mettront du temps à être remarquées.
Okay. Il délègue très souvent des femmes, et en fait, même Jeff Bridges dans ce film, il a un côté efféminé. Hein, donc, en femme à un moment donné du hold-up.
Clint Eastwood va tellement s'effacer qu'à un moment, on ne va même plus le voir du tout.
At this time, it is my privilege to bring to the microphone a young man who, in a short space of time, has become a legend. Born at the geographical center of the universe, 125th Street and Lenox Avenue, I saw him at the Apollo and I knew I had to have him with us. Not just because he brings us luck, no, but because Father Good Lord didn't see fit to give him no picture. He made up for it by endowing him with the spiritual inheritance of Jefferson and Bruce. And now, without further ado, I bring to you Albino Ray.
I'll play your wedding. Play my wedding.
Everybody, get all of it down.
Yeah.
Everybody. No more messing with that sucker, baby, 'cause I'll have to shoot you down.
Great, and one more chorus.
If
Vous écoutez France Culture, plan large sur Clint Eastwood avec Andrea Gruner, Bernard Benoliel et Fernando Ganzo. Les Blancs peuvent-ils chanter le blues? C'est une des questions que pose ce film Bird de Clint Eastwood en 1988. Évocation plus que biographie hein, de Charlie Parker. Étape sans doute décisive dans le revirement critique sur Eastwood, amorcé déjà par la rétrospective intégrale que lui avait consacrée la Cinémathèque française dès 1980. Vous racontez, Bernard Benoliel, dans votre livre sur Clint Eastwood, le moment décisif qu'a été pour lui la découverte, il était adolescent, il était grand, beau et timide, en 1946, de Charlie Parker. Il est à Auckland, il va à un concert de jazz at the Philharmonic et il découvre Charlie Parker et vous dites qu'il y a sans doute pour lui un avant et un après Charlie Parker, comme on pourrait dire que pour le cinéaste, il y a un avant et un après Bird.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un moment où il est en 46, il a 16 ans. Donc il est dans une période de transition, d'hésitation, il n'y a pas de vocation artistique affirmée depuis l'enfance et depuis sa chambre. Donc il est à l'écoute. Et puis il se rend compte surtout, je pense, que à la fois la musique de Charlie Parker est inédite, et puis que ça correspond à son approche du monde et à sa façon de réfléchir, c'est-à-dire de manière instinctuelle. Il ressent, il éprouve, il est ému. Et ça, d'une certaine manière, ça va le marquer toute sa vie et ça va conditionner. Tout à l'heure, on parlait de sa manière de tourner. Et effectivement, il s'est toujours méfié, je dirais, et à raison, dans son cas, du raisonnement intellectuel qui préside à la création et à la réalisation. Finalement, ses films les plus intellectuels, en quelque sorte, dans les années 2000, je pense à Mystic River, par exemple, qui peut être impressionnant formellement, sont peut-être ces films entre guillemets les plus lourds, parce que ce sont les films où il y a le plus la volonté de penser. Alors que lorsqu'il se laisse aller en quelque sorte, comme j'allais dire free jazz, lorsqu'il se laisse aller à sa manière et qu'il se prend de vitesse et qu'il prend de vitesse le plateau, il est lui-même au meilleur de ce qu'il peut. Ça, oui.
Alors son amour pour le jazz, il n'avait jamais fait mystère. Hein. On parlait tout à l'heure de Play Misty For Me. Il y a ce moment de documentaire très, très étonnant au Festival de Monterey où on voit Cannonball Adderley, Joe Zawinul et autres. Le fils d'Eastwood, Kyle Eastwood, est un musicien de jazz. D'ailleurs, dans ce film, vous l'aviez interviewé, Fernando Ganzo, il décrit les méthodes de travail de son père comme de celui d'un Duke Ellington, quasiment un directeur de jazz band, de big band, c'est-à-dire qu'il va utiliser les capacités de chacun, toutes leurs idées pour organiser tout ça et en faire un film.
Effectivement, et quand on parle avec ses collaborateurs et cette équipe si soudée, l'expression qui revient le plus souvent, c'est go with the flow. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez lui, on s'arrête pas, on se regarde, on se comprend, et on réagit l'un aux autres. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est ça, paradoxalement, cette façon très libre et naturelle de travailler, qui a fini par créer ce qu'on appelle le classicisme de Clint Eastwood, à savoir le cinéaste classique, le dernier cinéaste classique, on dit souvent, ce qu'on peut mettre en question. Mais je crois qu'effectivement, cette façon de travailler a fini par créer une sorte de système qui fonctionne tellement que parfois ces films semblent le lui échapper. Tenir des discours qui sont pas forcément les siens et avoir des rapports extrêmement compliqués à ses propres personnages. On parlait tout à l'heure de l'inspecteur Harry, c'est quelque chose qui est aussi dans les cinémas de Don Siegel. Mais je trouve que c'est grâce à cette façon de travailler presque sans autorité, Tom Stern, son chef opérateur, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, je lui ai demandé s'il parlait, s'il se disait des choses par rapport aux scènes. Non. Quand on est ensemble, de quoi vous parlez? Bah, de rien. On se pose, on boit un verre ensemble. Et au tournage, Clint me regarde, je le regarde, je comprends ce qu'il veut, je le fais. Et c'est tout.
Il n'est pas anodin non plus, pour revenir à Bird, Andrea Grunert, de faire un film en 1988 avec un noir comme personnage principal, réalisé par un blanc. Même si Eastwood dira toujours qu'il s'est senti un noir dans la peau d'un blanc, il va utiliser des stratégies un peu dans ce film, puisque c'est le point de vue quand même de blanc sur ce personnage, sur de sa femme et de Red Rodney, qu'on a entendu tout à l'heure, qui doit se faire passer pour un noir albinos quand il va tourner dans le sud des États-Unis. Et chez Eastwood, il n'y a jamais un discours très direct sur la ségrégation, sur le racisme, mais il y a pourtant toujours chez lui des personnages d'afro-américains, voilà ce que le mot que je cherchais, qui sont mis souvent quand même à égalité avec lui. C'était le cas déjà dans Play Misty for Me, son copain est noir, ça va être le cas l'inspecteur Harry aussi, et puis on va en parler dans un instant dans Impitoyable avec le personnage de Morgan Freeman. Comment est-ce qu'il aborde la question, Andrea Grunert?
Je trouve que c'est quand même une question assez compliquée chez lui, parce qu'il y a aussi des moments où on peut se heurter à ce côté de positivisme, dans Honky Tonk Man notamment, où les Noirs sont vraiment ceux qui se droguent, et ça rentre tout à fait dans les discours reaganiens à l'époque. Mais en même temps, c'est vrai, il s'intéresse aussi aux marginaux de toutes sortes, que ce soit des Noirs, des Indiens, des vieillards, tous ces gens qui sont facilement dans la marge de la société américaine, ou aussi française, bien entendu, ou allemande. Et ça, c'est quand même très intéressant, comme il est présent aussi, notamment dans les années 80, dans un film comme Bronco Billy, l'exaltation d'une communauté de marginaux, ou aussi la réconciliation qui se fait José Bates hors la loi, je cherchais le titre français, excusez-moi. Et c'est quand même très intéressant, cette façon de montrer des gens qui gardent leurs aspects, les caractéristiques individuelles venant justement de ces marges continues dans la société américaine, ce soi-disant melting pot qui se fait ici par des gens à l'extérieur du système, dont les Afro-Américains.
Oh, oh God, you no good goddamn pig fucking whore. Oh,
sorry, old horse.
I brung this along for when we have to kill them fellas. Figured we could use some now.
Not me, I don't touch it no more.
Oh, come on, Will, it's raining.
I know it's raining. Give some to the kid, why don't you?
You think that kid really killed five men?
No.
You know, when he was talking back there about the time them deputies had the drop on you and Pete.
Yeah?
Well, I remember there was three men you shot, Will, not two.
Well, I ain't like that no more, Ned. I ain't no crazy killing fool.
Still think it's gonna be easy to kill them cowboys?
We don't drown first.
C'est évidemment Impitoyable en 1992, cette chevauchée sous l'orage, Clint Eastwood et Morgan Freeman, déjà âgés à l'époque. À l'époque, on trouve que Clint Eastwood est vieux, mais on a encore rien vu, et qu'ils vont aller accomplir cette dernière mission pour venger cette prostituée qui s'est fait balafrer par deux cow-boys. C'est un peu Bernard Benoliel, c'est en tout cas votre thèse dans votre livre sur Eastwood, et je la partage totalement. C'est un peu son homme qui a tué Liberty Valance, ce film. C'est l'enquête infinie d'Eastwood sur les origines de la violence et sa façon de montrer, on aurait pu appeler ça History of Violence, comme Cronenberg, de montrer, comme John Ford, que la violence n'est pas un problème de la société américaine, c'est le fondement même de cette société.
D'ailleurs, au moment où il tourne Impitoyable, c'est le moment où se produit un fait divers tragique aux États-Unis, c'est la mort de Rodney King, qui était un jeune noir qui est mort sous les coups de la police. Et Eastwood, au moment où il prépare le film, où il tourne, il voit ça. Et ça provoque un croisement, et en quelque sorte, ça le conforte dans l'idée que effectivement, il lui faut tourner Impitoyable, parce que Impitoyable raconte ça, raconte qu'effectivement, c'est un pays qui s'est fondé sur la violence, qui s'est régénéré par la violence, et qui n'en sort pas. Que en quelque sorte, dès qu'on veut déprogrammer la violence, et le personnage que joue Eastwood dans Impitoyable cherche à se déprogrammer lui-même de sa propre violence en disant, en quelque sorte, j'y touche plus aux armes. Et là où il y a un fantasme de déprogrammation de soi, il n'assiste lui-même qu'à la répétition de ce qu'il voudrait déprogrammer, c'est-à-dire sa violence. Et en quelque sorte, comme vous disiez, l'homme qui tue à Liberty Valance, effectivement, comme John Ford, il dit d'ordinaire, on imprime la légende, essayons d'imprimer les faits. Et les faits, c'est à rebours évidemment de la mythologie westernienne, et c'est la violence la plus crue, la plus nue, et celle à laquelle on n'échappe jamais. Ça sera aussi le discours de, à mon avis, son plus beau film, qui viendra juste après, et qui est Un monde parfait, et où, effectivement, c'est la même chose. Comment déprogrammer une violence qui ne fait que se répéter par celui-là même qui veut la déprogrammer?
Il y a quand même ce mouvement très paradoxal, Andrea Grunert, dans cette déconstruction infinie et cette remise en cause des images par Eastwood, c'est que il va commencer lui-même par faire des westerns dans la lignée de Sergio Leone, que ce soit L'homme des hautes plaines, José Wells sur la loi, Pale Rider. Le discours évolue peu à peu. On a le sentiment dans Impitoyable qu'il retravaille déjà cette image en disant l'homme sans nom qui arrive de nulle part pour tuer tout le monde de manière très efficace. Je vais vous montrer la réalité qu'il y a derrière. Et en même temps, il se construit un autre mythe, il se construit une autre image, et il en sort encore grandi, Clint Eastwood.
Oui, tout à fait. On a toujours ce mouvement de déconstruction et de reconstruction, finalement de construction d'abord, de déconstruction, de reconstruction. Je suis pas tout à fait d'accord, si je peux me permettre, sur José Wells hors la loi. C'est déjà très différent de Léon, et c'est déjà, ça montre déjà Impitoyable. Encore différemment, mais là, déjà, régénération par la violence nécessaire, mais douteuse aussi, parce que ce type est complètement paumé, et on montre aussi que c'est difficile de se débarrasser de cette violence, que c'est psychologiquement tout à fait difficile, dur, et qui va peut-être arriver, peut-être pas. Il y a Sandra Locke qui attend, mais on sait jamais. Donc, Impitoyable, il va encore plus loin dans cette démarche, et beaucoup plus loin, bien sûr.
Mais il annonce tout ça. Peut-être d'ailleurs avec José Wells et les films des années 70, c'est que par la violence, on arrive à recréer une communauté. La question de comment reconstruire après avoir tout cassé. Et il me semble, Bernard Manuel, que dans Impitoyable, la communauté est laminée.
Absolument. C'est-à-dire que ce qui fait la différence pour moi entre, disons, José Wells en 76, même Pale Rider en 85, qui sont notre western, et Impitoyable, c'est que d'ordinaire. Ce qu'on avait vu jusque-là, c'est que la traversée du territoire, disons le road movie westernien, le fait de traverser un espace, permettait au personnage une forme de résolution. Malgré lui, c'est le cas de José Wells, effectivement hanté par sa violence, à force de se déplacer, il va finir par agréger, comme l'aimant et la limaille, il va finir par agréger des bouts de communauté. Et ensemble, ils vont finir, bon an, mal an, à reconstituer quelque chose, disons, comme un navire qui se serait échoué, et avec les restes, on fabrique un radeau. Bon, c'est à peu près ça, José Wells. Dans Impitoyable, il n'y a même plus de restes, quoi. Ils ont beau traverser, je dirais que la communauté s'étiole, le nombre déjà peu nombreux, si je puis dire, de ceux qui s'agrègent, eh ben, diminue encore, et effectivement, c'est presque le mouvement inverse. Et donc, ce qui continue, comme vous disiez, à construire l'image d'Eastwood, c'est qu'Impitoyable, c'est un peu le fond du pessimisme eastwoodien sur la nature humaine, sur la violence et sur son idéal à lui de communauté. Parce qu'on parlait du melting pot tout à l'heure, vous parliez du melting pot, c'est évidemment quelque chose qui le hante. Et on parlait encore une fois du racisme, il y a un exemple qui suffit à répondre. C'est dans un film considéré comme mineur d'Eastwood et qui date de, je crois, de 2002, qui s'appelle Créance de sang. Son personnage, le personnage d'Eastwood, se fait greffer le cœur d'une Mexicaine morte. Et il a besoin, lui, d'un implant. Et il se fait greffer le cœur d'une Mexicaine. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire, à même le corps, ce que c'est que le melting pot pour Eastwood.
Where did he go? Who? The guy who was right here, Ignatowski, where did he go?
I
I think he jumped in the wrong hole.
I didn't jump in the wrong hole. He was right here. Now, where the hell is he? Iggy! Iggy!
Hey, shut up. You want every Jap on the island shooting at us?
Iggy!
Where are you from, soldier?
Marine. Able Company.
Okay, Maori. I mean, what is your hometown? I lived in California for a while. Do you know Mary Pickford or Douglas Fairbanks?
Sure, everybody knows them.
They are my friends. I've had them as our house guest in Tokyo.
No kidding? You somebody famous?
I was in the 1932 Los Angeles Olympics.
Is that the God's honest truth?
This is a picture of me and my horse champion.
No kidding. Oklahoma is where I'm from.
Takeshi.
Sam.
Chant contre chant, chacun étant le hors-champ de l'autre, c'est le diptyque Mémoire de nos pères, Lettre d'Iwo Jima en 2006, c'est-à-dire la bataille d'Iwo Jima, vue du côté américain dans le premier et du côté japonais dans le second, mais déjà à l'intérieur de Mémoire de nos pères, il y a le montage entre deux images, entre deux registres d'images, en tout cas on l'a entendu dans cet extrait qui réunit les deux films, il y a la bataille elle-même et sa représentation sous côté parade, fête foraine et son exploitation, qui est faite de cette image aux États-Unis, c'est à la fois, Bernard Benoliel, une réflexion sur la fabrique du héros et sur comment se fabrique une image. Et vous l'avez noté d'ailleurs dans votre livre, on parle de beaucoup d'influence pour Eastwood, mais peu de son rapport à la photographie. Et il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on fabrique une image dans ce film.
Tout à fait. On parlait tout à l'heure d'Impitoyable, c'est le même travail de déconstruction des légendes, ou comment on fabrique, aujourd'hui on dirait des fake news, comment aujourd'hui on fabrique une fausse information. Et le film Mémoire de nos pères, qui se situe donc en 2005, et qui traite de la bataille d'Iwo Jima pendant la bataille du Pacifique en 1945, en fait, répond sans doute aussi à l'administration Bush de l'époque, c'est-à-dire à la guerre en Irak, et comment cette guerre en Irak a été déclenchée sur la base d'une fausse information, comment l'administration américaine républicaine a menti, comment elle a fabriqué des preuves, comment elle a fabriqué des images, et comment elle a rendu en quelque sorte nécessaire une intervention avec laquelle Eastwood a jamais été complètement en phase ni d'accord.
C'était déjà son propos dans Le Maître de Guerre en 1986 sur l'intervention sur l'île de Grenade, avec toujours les ambiguïtés eastwoodiennes, mais il montrait quand même que c'était une mise en scène télévisuelle, André Grunert.
Oui, tout à fait. Je trouve que dans Iwo Jima, c'est encore plus complexe, bien sûr. Dans Le Maître de Guerre, c'est tout à fait clair. Ce qui montre avec beaucoup d'ambiguïté parce qu'il joue aussi le rôle principal, donc il y a toujours beaucoup plus d'ambiguïté. Mais je trouve cette entreprise de faire ce deuxième volet, d'ajouter, d'avoir pris lui-même, parce que le premier volet du diptyque, c'était d'abord un projet de Steven Spielberg, tandis que Lettre d'Iwo Jima, c'est une idée d'Eastwood, c'est tellement depuis les Perses, personne n'a fait une chose comme ça, c'est quand même très important, et d'abord, dans le premier film, c'est question de déconstruction de cette l'image de Rosenberg, effectivement une des images, des photographies les plus célèbres évoquées depuis 45 jusqu'au 11 septembre 2002 2001. Et donc là effectivement c'est encore une fois cette idée de déconstruction d'images sur des facettes multiples, tandis que je trouve surtout le deuxième film, tourné en japonais, encore une fois, fantastique ce risque qu'il prend.
Il a bien fait d'ailleurs, parce que le deuxième film a beaucoup mieux marché, rapporté à son budget, que le premier.
Oui, et en plus qui était beaucoup moins coûteux, et donc c'est quand même un grand risque qu'il a pris. Et c'est devenu une œuvre quand même très très importante aussi sur le regard sur l'autre.
C'est là que ça devient, Bernard Menoniel, beaucoup plus compliqué et ambigu comme toujours chez Clint Eastwood, parce que il va faire un film sur avec que des Japonais, on parle en japonais, etc. Mais on l'a entendu dans l'extrait, ces Japonais sont d'autant plus aimables qu'ils aiment beaucoup l'Amérique, qu'on va parler de Mary Pickford, de Douglas Fairbanks, et que ça a beau être l'ennemi, ils admirent quand même beaucoup le modèle américain.
Oui, il y a une pensée de l'autre qui a souvent été négligée et qui là, dans le diptyque, c'est-à-dire le point de vue japonais sur le même événement tel qu'il a été vécu par les Américains, éclate, enfin se manifeste. Je pense qu'il invente en quelque sorte ce diptyque où il a l'idée du contre-champ, justement parce que il a la préoccupation de l'autre, la préoccupation de... Presque, on pourrait dire, alors là, tout à l'heure, Fernando Gonzo disait le point de vue classique, c'est comme s'il réinventait ce qui existait dans Citizen Kane ou dans Rashomon de Kurosawa, c'est-à-dire un même événement vu de plusieurs points de vue, comme si la réalité était trop complexe pour qu'on puisse l'aborder, je dirais, frontalement, ou avec une seule fiction, ou avec un seul film, mais que si on veut faire le tour de la réalité, même avec deux films, on n'en fera pas le tour, mais au moins on donne l'idée de la complexité de la réalité et aussi de l'existence du point de vue de l'autre. Et l'existence du point de vue de l'autre, c'est ce qui fonde ce qu'on pourrait appeler banalement, mais véritablement, l'humanisme de Eastwood, et quelque chose qui hante sa démarche, parce que les États-Unis, encore une fois, fondés sur la violence, ont commencé par la négation de l'autre, hein, que ce soit l'Indien ou le Noir américain, la négation de l'autre permettrait l'existence du blanc. Eastwood, encore une fois, invente des espaces utopiques qui sont les espaces de ses films et dans lesquels il tente une forme de réparation ou de réconciliation permanente ou de réécriture.
Mom, Jesus.
Sorry, sweetie, I can't stay if he's here. I'll wait in the car, Mom.
No, honey, just. Oh, well, of course. You're not here because of the wedding, no, no. You're here because you have nowhere else to go again. And you promised Jenny you'd help pay for the wedding.
It's fine, Grandma. We can just make it BYOB.
No, it's not fine. It's never been fine.
How dare you come in here and make all this fuss
because
right here in front of
you weren't there for your own daughter. Now you're letting down your granddaughter. But it's no big surprise. You know why? You were never a real father or a husband.
I was on the road 60 hours a week to provide for this family.
You know what you do? You play with your friends. You sit around and hand each other trophies for watching seeds sprout.
Depuis 1971, la voix a un peu vieilli, mais c'est bien celle de Clint Eastwood qu'on vient d'entendre dans cet extrait de La Mule. On va être un peu plus rapide sur ce film qui est le prétexte de cette émission. Film évidemment très intéressant, Bernard Benoliel, parce que ça fait des années qu'on va voir le dernier film d'Eastwood comme si ça pouvait être le dernier. Hein. L'homme est âgé, je l'ai dit tout à l'heure, il a 88 ans. Ça fait des années qu'on regarde aussi vieillir le corps d'Eastwood, et c'est ce spectacle-là en premier que nous donne à voir La Mule.
Ah oui, je pense que le plaisir principal ou l'argument principal de La Mule, c'est que Eastwood est de retour, c'est-à-dire, enfin, à l'écran. On l'avait pas vu depuis 10 ans. On l'avait pas vu depuis Gran Torino à l'écran dans un de ses films. Et dans Gran Torino, il meurt à la fin. Donc, on pouvait supposer aussi qu'il nous disait qu'il ne reviendrait pas en tant qu'acteur. Donc, disons, le charme principal de La Mule, c'est lui. Et puis, l'autre charme, me semble-t-il, c'est que, même le charme rétro, c'est que, d'une certaine manière, ce road movie un peu nonchalant sur les beautés du présent nous renvoie, encore une fois, le souvenir, l'écho de ce qui a été pour moi son plus beau film, c'est-à-dire Un monde parfait, qui traite de la même errance et du même rapport au temps. Voilà. Après, on peut considérer La Mule aussi comme, disons, sinon un film mineur, du moins un film un peu en retrait par rapport au précédent qui a été détesté et laminé. Et à mon avis, c'est une erreur fatale, c'est que 15h17 pour Paris est son vrai film expérimental, mais ça lui a coûté assez cher, et donc là, on revient vers une fiction plus consensuelle et plus agréable.
C'est ça qui est très curieux dans les 10 dernières années, on dira, de Clint Eastwood, c'est-à-dire que cet homme d'abord tourne toujours, ce qui est très rare à Hollywood, généralement on atteint une date de péremption assez vite, alors il continue à tourner parce qu'il a ce système qu'on a décrit tout à l'heure au sein de la Warner, il va faire beaucoup de films inspirés de faits réels, mais comme l'a dit Bernard Benoliel, il va continuer à expérimenter. Ça, c'est très surprenant de la part d'un homme aussi installé et, je le répète, âgé, Andrea Gruner.
Oui, qu'est-ce que je peux dire à ce propos? Je peux juste le confirmer parce que c'est vrai, c'est ça qui fait aussi sans doute son succès finalement, mais qui le rend aussi intéressant pour un public intellectuel, et puis on s'ennuie jamais quand même, donc il reste aussi ouvert à l'écoute d'un public, d'un grand public. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et là, il rappelle aussi Kurosawa. Hein, il prend des risques, constamment des risques, parce aussi pour son avant-dernier film, jouer avec des amateurs, enfin, travailler avec des amateurs, c'est vraiment au risque. Hein, et aussi les films qui, je pense, n'ont pas très bien marché là, ces derniers temps. Avant American Sniper, il y a toujours des risques, point de vue sujet, point de vue mise en scène aussi. Hein. Donc ça, c'est quand même une chose fantastique qu'on devrait souligner davantage.
Bernard Benoliel.
Oui, je dirais qu'il est libre, il est malin. Et il est réaliste, c'est-à-dire que même à l'âge qu'il a et même avec le pouvoir qu'il a acquis au sein des studios, il connaît la loi du marché. Quand on a fait un échec, il faut faire un succès. On vaut ce que vaut le dernier film. Et donc, d'une certaine manière, quand il a fait un succès, il se permet un film non pas plus personnel, parce que je crois qu'ils le sont tous, mais en tout cas, un film peut-être plus audacieux. Et puis après, si ça n'a pas marché, il se refait et puis il repart. Ça, il est là-dessus, il est imparable. The morning is a friend of mine. It always plays my song. And anytime I ask the wind, it lets me tag along. I read the lessons in the leaves. They've a world of things to tell me. I always keep my pockets filled with pumpkin seeds. Going to the fair, I'll walk along with you. The day is shining in our hands, like a dime to spend together, and we can talk of many things.
On close cette séquence Eastwood sur une chanson tirée de son deuxième film, le très touchant et étonnant Breezy, chanson interprétée par Shelby Flint et composée, vous l'aurez peut-être reconnu, par Michel Legrand, dont on a appris la disparition samedi dernier, si ça vous avait échappé. Longue vie à Clint Eastwood, son dernier film en date, La Mule, est sur les écrans depuis le 23 janvier et il marche très bien aux États-Unis comme en France. Tous ses autres films sont bien évidemment disponibles en DVD. Merci beaucoup Andrea Grunert d'être venu nous voir d'Allemagne. Votre dictionnaire Clint Eastwood est édité par Vendémiaire. Merci à vous Bernard Benoliel. Votre livre Clint Eastwood, c'est au cahier du cinéma. Côté ressorti en salle, ne ratez pas cette semaine la version numérique restaurée du film culte de Monty Hellman, Macadam à deux voix, road movie ultime qui doit beaucoup vous plaire, Bernard Benoliel. Road movie qui a tout brûlé sur son passage et qui a malgré tout influencé aussi bien Jarmusch que Stevenin ou Gus Van Sant ou encore même Chantal Akerman. Et puis une rareté également ressortie mercredi dernier en version restaurée, La Grande Aventure du Suédois Arne Suxdorf. très belle histoire d'amitié en 1953 entre deux petits garçons et une loutre. Du même Suxdorf ressort également L'Arc et la Flûte, filmé en 1957 dans une peuplade isolée du centre de l'Inde. Et puis enfin, si vous vous demandez ce qui se faisait en France pendant que Clint Eastwood tournait Honky Tonk Man, Pale Rider ou Bird, eh bien allez au Forum des Images à Paris. France Années 80, le cinéma soigne son look, propose jusqu'au 28 février de voir ou revoir aussi bien L'Argent de Robert Bresson que Nikita de Luc Besson, Mauvais Sang de Léos Carax que Délicatessen de Caro et Jeunet. L'offre est très large. Alors j'ai cherché Fernando Ganzo pour enchaîner avec votre chronique à relier dans le même plan Clint Eastwood et Robert Mitchum. Il existe une photo des deux ensemble, c'est à l'avant-première des Proies en 1971. Le frère cadet de Robert, John Mitchum, a joué le partenaire de l'inspecteur Harry dans 3 épisodes de la série. Certains prétendent qu'Eastwood est figurant dans Torpille sous l'Atlantique en 1957 avec Mitchum en commandant de sous-marin, mais enfin ça n'a jamais été prouvé. Aucun film en commun donc entre Mitchum et Eastwood, sauf peut-être la dégaine du premier de Mitchum dans L'Aventurier du Rio Grande de Robert Parrish en 1959. Influence probable et possible, en tout cas sur celle de L'Homme sans nom chez Sergio Leone. Mais en tout cas, entre Mitchum et Eastwood, il y a certainement surtout un goût commun pour le laconisme, pour le minimalisme du jeu et une certaine façon d'être au monde, comme dira Eastwood de Mitchum. Il s'en foutait tout simplement.
You're losing your laundry, Mr. Fairways.
You know, first time I heard that shooting, I figured it might be you.
Why?
On account of Susan took to the musket just like a minute man.
Well, now, why should I? Well, just because Susan can shoot.
Well, you're so much a pair in every other way, including a husband. No reason why you shouldn't be the same with a rifle.
Well, I don't hardly know how to shoot.
Figure that.
Well, then I don't know what you mean, Mr. Fairways.
Well, I just mean that you're setting out to prove that you're just as good as Susan Harvey any day, any way. All I mean is, I think you two ought to be friends instead of rivals. You'd have liked each other fine.
What was she like?
Oh, like you, mostly.
How?
Practical, patient, pure, pretty. Maybe even beautiful.
Oh.
Smart, too. Smarter than me or Big David.
She must have been.
We both thought she'd marry me, but I never give up hope. She'd left Big Davy out and married her in a minute.
Robert Mitchum et la belle musicalité de sa voix, c'est dans Rachel et l'étranger de Norman Foster en 1948, à l'époque où Mitchum était en contrat avec la RKO. Il y joue un cow-boy chantant, séducteur et évidemment déjà très inquiétant. Robert Mitchum, les derniers secrets de l'homme qui n'en avait rien à foutre, promet la couverture du nouveau numéro de notre partenaire Sofilm, volumineux dossier dans ce Sofilm à l'occasion de la sortie à la fin du mois de février du portrait magnifique de lui que signe Bruce Weber et dont il nous avait parlé début septembre, c'était à Deauville. Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Un homme difficile à résumer que Mitchum, notez-vous Fernando Ganzo dans la présentation de ce dossier, d'apparence simple et solide, un cow-boy, un vrai, mais aussi un poète, un séducteur et une présence nonchalante qui lui conférait une étrange touche dandy. Chez Bruce Weber, on découvre un Big Bad Bob vieillissant, loin des lumières d'Hollywood et qui occupe ses journées à faire ce qu'il aimait finalement le plus au monde, chanter. Fernando Ganzo.
Oui, difficile à résumer, hein, vous dites bien, Antoine. Pourquoi Robert Mitchum est un acteur si spécial, si unique, si fascinant? C'est peut-être effectivement cette distance envers ce métier qu'il semble dégager, la sensation de jouer sans jouer. Et lui-même, il disait cette phrase, « Si on m'engage sur un film, je ferme les yeux, on peut me peindre les yeux sur mes paupières et je joue. » Ce qui relève quand même un peu de la mythomanie, quand on sait, par ailleurs, jusqu'à quel point il pouvait s'investir dans certains rôles, par exemple dans Les Indomptables, avec son ami Nicolas Ray. Mais personnellement, moi, quelque part, je suis persuadé que la réponse se trouve justement dans cette nature contradictoire. C'est-à-dire qu'il a généré, volontairement ou pas, surtout dans certains moments de sa carrière, une image de macho, des types violents, inquiétants, séducteurs, redoutables, mais... Pour moi, certains de ses rôles les plus marquants sont ceux qui ont réussi à trouver chez lui une faille. Ces moments aussi où les cinéastes le plus discrètement audacieux ont trouvé dans son visage une part de pour moi, étrange beauté féminine. Je pense notamment à Jack Turner et La griffe du passé, où Mitchum va à un moment donné se laisser aller dans les bras du personnage de Jean Greer, finalement bien plus forte que lui, quelque part. Philippe Garnier, dans notre dossier, insiste sur l'idée que, dans toute sa carrière, Mitchum n'a jamais été aussi bon que les rares fois où il joue un personnage faible ou vulnérable, comme dans Les copains d'Eddie Coyle, ou La fille de Ryan, ou dans les sensationnelles 10 premières minutes des Ciels Rouges. Et pour lui, son apparition la plus inoubliable à l'écran reste L'aventurier du Rio Grande de Robert Parrish, parce qu'il y est souvent rapétissé et dominé. Cependant, il serait injuste de négliger cette part d'ombre qu'il y a en lui, comme dit François Guérif aussi dans notre numéro, en paraphrasant James Ellroy. Impossible d'oublier ses rôles terribles, comme dans « C'est lui par qui le scandale arrive »,« Le nerf à vif » ou « La nuit du chasseur », à tel point que Mitchum raconte que c'est Charlton qui doit adoucir l'ensemble de ce film. Et selon lui, « Après mon départ, dit Mitchum, ils ont continué à travailler pendant 5 mois et c'est là que Charles a mis tous ses hiboux et ses chats. Il disait me trouver trop terrifiant. Il ne voulait pas que les gens soient obligés de prendre leurs enfants dans les bras s'ils me croisaient dans la rue. » Il suffit aussi d'entendre dans le film « Nice Girls » dans « Stay for Breakfast » le témoignage de l'actrice Polly Bergen pour comprendre comment Mitchum pouvait être soudain transformé par certains de ses rôles. Ce qu'elle décrit sur la séquence de l'agression des nerfs à vif est terrible, ressemble presque à une possession démoniaque, celle qui le pousse à improviser, à prendre un œuf qui est sur le décor et l'écraser violemment contre l'actrice, ce qui lui fait terriblement peur. Mais dès qu'on dit couper, c'est Mitchum qui revient à la réalité en larmes et qui s'excuse auprès des Bergen. Contradictoire, quoi, toujours. Cet homme qui a fait de la prison 2 fois, ce jour qu'il décrit comme Palm Springs sans la racaille, qui avait envoyé paître la commission sur les activités anti-américaines avec la phrase devenue culte « Je n'aime pas parler à des gens avec lesquels je ne voudrais pas boire dans un bar », mais qui se retrouve plus tard à aller soutenir les troupes américaines dans une guerre à laquelle il ne croit pas, celle de Vietnam, et même appeler personnellement leur famille. C'est peut-être donc à cause de ces vérités sombres et cachées chez lui que Mitchum semble trouver sa véritable nature, effectivement, dans des activités qui sont loin des feux d'Hollywood. C'est peut-être ça aussi qui crée chez lui cette image nonchalante, presque un poil dandy, je trouve. Et je m'en foutiste, cette démarche de panthère tombée du lit. Je pense au poème qu'il écrit souvent très tard dans la nuit, sans aucune intention de le publier. Bon, nous, on en publie 2. Et surtout à la musique. Effectivement, c'est passion intime depuis sa jeunesse qui va pas l'abandonner. Depuis toujours très curieux, ça va aller de Dizzy Gillespie à Beethoven. Il va enregistrer des morceaux, un album Calypso, la chanson de la ballade de Thunder Road, surtout une version d'un morceau country, A Little Old Wine Drinker Me. Et c'est peut-être son point commun avec cet autre grand mélomane qui est Clint Eastwood. On a toujours dit des deux qu'ils sont devenus comédiens un peu par hasard. Et c'est ce qui arrive quand on aime autant la musique. On se laisse emporter par le rythme.
Honey, come and go with me back to the West Indies. Baby, can't you see I'm losing my pep and my energy. What I need is
drink the coconut water.
The jelly.
Drink the coconut water.
Yes, it is a builder.
Drink the coconut water. I cannot get in America.
What is the tonic, man?
Drink the coconut water.
The jelly.
Drink the coconut water.
Yes, it is a builder.
Drink the coconut water. I cannot get in America.
Coconut Water par Robert Mitchum s'est tiré de l'indispensable album Calypso is Like So. On va bien finir à force par en passer toutes les plages dans Plan Large. Merci beaucoup Fernando Ganzo. Le nouveau SoFilm est dans les kiosques à partir de mercredi prochain.
Oui.
Il faudra attendre le 27 février pour découvrir en salle Nice Girls Don't Stay for Breakfast de Bruce Weber, qui sera accompagné d'un superbe livre d'art à petit prix, journal du film et portrait en images de Mitchum, un livre édité par la Rabia et une parution que Bruce Weber lui-même dédicacera le mardi mardi 5 février à partir de 19h dans la boutique Agnès B, rue du Jour à Paris, à l'occasion du vernissage de l'exposition de ces photos inédites de Robert Mitchum. Mais venez tôt parce qu'il y aura peu de livres à dédicacer. Et puis pour écouter Bruce Weber parler de Mitchum, c'était dans Plan Large le 8 septembre dernier à vos podcasts. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Pascal Baudin. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan Large sur un autre badass hollywoodien, le cinéaste Robert Aldrich, à l'occasion de la ressortie en copie neuve dans Quatrième Vitesse. Nous serons avec Jean-François Roger et Marcos Ouzal. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
My friends, I would be glad the day I get back to Trinidad. I know my people would be glad to see me like a monkey climbing up the coconut tree. What I need is
drink the coconut water,
the jelly,
drink the coconut water.
Yes, it is a builder,
drink the coconut water. I cannot get in America.
What is the tonic man?
Drink the coconut water,
the jelly,
drink the coconut water.
Yes, it is a builder,
drink the coconut water. I cannot get in America. America.